À la une, ce grand mercato au niveau des représentants de l'État en Polynésie française, de la géopolitique aussi avec la présentation de la stratégie indo-pacifique de la France. Et pour terminer, ce nouveau livre chez Au vent des îles de Patrice Guirao. Le journal, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et on commence avec ce mercato au niveau des représentants de l'État en Polynésie.
Oui, d'abord avec le nom du prochain commandant de la gendarmerie. Selon Tahiti Info, le colonel Stéphane Brunet va succéder au colonel Grégoire Demaison. Ce ne sera pas une première dans l'outre-mer pour Stéphane Brunet, puisqu'il a déjà commandé la compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre et Saint-Barthélemy. Et pour l'anecdote, son grand-oncle, gendarme aussi, a servi en Polynésie française il y a 60 ans. Le colonel Grégoire Demaison va lui devenir directeur en charge du dialogue social au sein de la Direction générale de la Gendarmerie nationale à Paris. Et puis il va y avoir du changement aussi du côté du Haut Commissariat. Eric Spitz est sur le départ et on parle d'Alexandre Rochat pour le remplacer. Pas un inconnu ici, puisqu'il était en poste au Fénois entre 2010 et 2012 où il était secrétaire général du Haut Commissaire. Sa nomination doit encore être officialisée au Conseil des ministres dans l'Hexagone ce mercredi.
Géopolitique maintenant avec la stratégie Indo-Pacifique que la France a réactualisée.
Oui, après la signature de l'accord de Bougival, la France a profité de l'accalmie pour publier cette nouvelle stratégie. Quatre grands axes la composent. Le premier concerne le renforcement des collectivités ultramarines, les dépenses de défense, la cybersécurité et le soutien aux organisations régionales. Le deuxième axe, c'est la consolidation des partenariats de souveraineté sur les plans militaires, économiques et humanitaires. Le troisième axe, c'est le soutien au multilatéralisme. La France aimerait avoir un siège dans l'importante association des pays de l'Asie du Sud-Est. Et enfin, le quatrième axe, c'est l'appui à la stratégie européenne dans la zone, par exemple sur la sécurité des ports ou les accords commerciaux. Et si la stratégie indo-pacifique de la France semble ne pas avoir beaucoup évolué depuis 2018, le contexte, lui, a changé, Caroline Perdry. Et une question se pose, est-ce que la France est crédible ?
C'est à voir, Lucie. Depuis 2017, Emmanuel Macron n'a cessé de mettre en garde contre les nouveaux impérialismes. Un discours qui n'a pas toujours été bien perçu dans la région, notamment par les pays membres du Forum des îles du Pacifique, très engagés dans le projet des routes de la soie, ni même par l'Australie. La méfiance envers l'héritage nucléaire de la France persiste également dans la région pacifique. Le slogan « allié mais non aligné » prend un peu plus de sens face non seulement aux appétits commerciaux et militaires chinois, mais aussi face à la politique extérieure brouillonne des États-Unis, qui inquiète de grands pays comme le Japon ou la Corée du Sud. La France se présente, et l'Europe à travers elle, comme une troisième voie, un partenaire fiable et stable, un phare de démocratie dans une période obscure. Mais pour que ce narratif gagne en crédibilité, la capacité de la France à sortir la Nouvelle-Calédonie de l'impasse sera scrutée, car sans le caillou, l'Indo-Pacifique français serait indiscutablement amoindri. Il lui faudra parvenir à créer un nouveau mode d'association politique avec la Nouvelle-Calédonie, à accompagner économiquement ce territoire où le modèle du nickel a échouer et à y maintenir une présence stratégique pour démontrer ce pragmatisme dont elle se réclame.
Et la première étape sera donc de réussir à conclure et concrétiser cet accord de Bougival sur le caillou, beaucoup critiqué notamment par les indépendantistes, on vous l'a dit.
On continue à parler du Pacifique avec cette annonce de Donald Trump.
Un président américain qui n'aime pas beaucoup les migrants et qui aimerait bien les envoyer à Palau. Le gouvernement Trump a soumis au petit État micronésien un projet d'accord pour recevoir des migrants. Un projet qui ne mentionne ni combien de personne serait expédiée ni la contrepartie. Eh bien, c'est non. Le Parlement et le Conseil des chefs de Palau ont rejeté la demande de l'administration américaine.
Une nouvelle saisie de drogue sur le port de Papeete début juillet.
Après les 140 kilos de cocaïne trouvés dans un conteneur sur le port de Papeete au mois de mars, ce sont près de 90 kilos qui ont été trouvés encore dans un conteneur au début du mois. 5 étaient à destination de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ils ont été déchargés et l'un d'entre eux contenait 80 pains de cocaïne. Poids total exact, 89,7 kilos et valeur estimée de la marchandise, 1,8 milliard de francs.
Le débat sur la fin de vie est arrivé à l'Assemblée de Polynésie.
Avec une proposition de résolution déposée par le Tavini en réaction directe aux lois en train d'être adoptées en France. Le droit de l'aide à mourir et l'accès aux soins palliatifs ont déjà été adoptés à l'Assemblée nationale et le Sénat doit les étudier dans les prochains mois et ces dispositions pourraient être étendues en Polynésie. Mais selon Tahiti Info, le Tavini n'en veut pas tant qu'une concertation citoyenne sur le sujet n'a pas été menée.
L'équipe professionnelle de football Tahiti United est tout près du but.
Et oui, on vous a déjà parlé de cette future ligue professionnelle pour l'Océanie que la Confédération de football pour la région prépare. 8 équipes doivent être choisies pour s'affronter sur les terrains. Peu de place donc et beaucoup de compétition. 24 clubs et fédérations souhaitent y aller et les choses avancent. Après une première sélection, 13 sont encore dans la course, dont l'équipe polynésienne. Tahiti United a été créée tout spécialement par l'AS Vénus, mais l'équipe réunira des joueurs issus de différents clubs du Fénois. Et ce n'est pas seulement leur niveau qui compte, mais c'est aussi leur engagement. Un dossier qui a nécessité des centaines d'heures de travail, comme le raconte l'entraîneur du club de Marina et sélectionneur des Toa Aito, Samuel Garcia.
On a dû, dans le cahier des charges, répondre à des engagements sur, on appelle ça le safeguarding, c'est quel est notre plan pour lutter contre les incivilités, contre le harcèlement sexuel, contre les agressions au niveau de la jeunesse. On a été obligé de proposer un plan de marketing. On a été obligé de transmettre un plan d'éthique. Voilà tout ce qui peut se faire dans un club professionnel. On a un document de 280 pages qu'on a transmis à l'OFC pour l'éligibilité de notre club.
Et l'autre chantier important, c'est celui du cadre juridique pour les contrats professionnels. Là aussi, les choses avancent. Un équilibre a été trouvé et des contrats sont prêts. Une avancée qui pourra resservir dans le milieu du ballon rond, mais aussi dans d'autres sports.
Le football doit être un moteur, mais c'est surtout que derrière, nous avons des super sportifs. On le voit tous les jours. On a des surfeurs qui sont très, très forts, des boxeurs, du taekwondo. Pourquoi pas d'autres, le va-a, pourquoi pas d'autres sports qui sont très performants, mais on a besoin d'être encadré dans un statut où on se réveille le matin et on va s'entraîner, on a un suivi médical, on a un suivi alimentaire.